marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Oh, oh.
Alors vous avez tué.
Roulez la musique.
Chantez le crime.
C'est à l'Immaculée dans la Bretagne que ce grand crime affreux fut accompli. Dans une ferme au milieu de la campagne, lorsque le vieux eut ouvert sa porte, tout aussitôt les mauvais garnements sautèrent sur lui et sur le lit le portent et lui demandent où se trouve son argent. Et lui demandent où se trouve son argent.
Faites entrer l'accusé aujourd'hui, il n'est pas de chaîne de télé, jusque sur la TNT qui ne rêve d'émissions de faits divers à succès. L'une d'entre elles s'appelle « Affaire suivante ». Un personnage y chasse l'autre, le violeur aux chaussettes, le calvaire de la jeune fille au père à Londres, le maître chien qui a tué la petite fille. Au 19e, nous avions le procureur saigné sur une table de cuisine, le curé fratricide, l'empoisonneuse en série. Leurs histoires étaient imprimées sur des feuilles volantes, des canards, échantées au coin des rues et jusque dans les maisons. Les complaintes criminelles pouvaient compter des dizaines de couplets, chantés sur des timbres connus de tous. Leur écho se prolongea très loin dans le temps. Ni l'apparition des journaux populaires à bas prix, ni la Grande Guerre n'en vinrent à bout. Il fallut la victoire de la radio, actée pendant la Deuxième Guerre, pour qu'elle soit renvoyée au silence. Sans doute la télévision aujourd'hui retrouve-t-elle quelques-uns de leurs ressorts, par exemple le souci de la séparation des bons et des méchants, sans aller cependant jusqu'à l'appel à la loi du talion que pratiquaient les complaintes. Mais si la télévision peut dire qu'elle a une audience populaire, il lui est difficile de se présenter comme une production populaire, ce que revendiquaient les complaintes criminelles. Ces complaintes criminelles qui méritent d'être retrouvées dans ce qu'elles ont eu de spécifique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Je vous présente, bonjour, Jean-François Enzel, sous deux identités.
Oui, bonjour Jean Lebrun.
Jean-François Enzel, professeur agrégé de mathématiques dans un lycée. Vous aviez choisi, vous et vos collègues, de l'appeler. C'est à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, le lycée Louis-Lecoing.
Oui, mais le maire de l'époque, monsieur Maurice Papon, a décidé de l'appeler lycée Jean Moulin, allez comprendre.
Bah que grâce lui soit rendue. Et maintenant, vous habitez le Bourbonnais, à l'orée de la forêt de Troncay. Et vous êtes devenu historien, en même temps que vous êtes musicien, sous le nom de, double Maxou. Identité, Maxou.
Voilà, c'est mon surnom.
Ce qui veut dire ?
Rien du tout.
Ah. Oui, les noms ne signifient pas toujours ce qu'on imagine. Et vous travaillez sur ces complaintes criminelles que vous couchez sur la toile. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un site qui s'appelle Criminocorpus, qui présente beaucoup de documents d'ordre judiciaire. Et il y a quoi? Plus de 800 complaintes?
On a dépassé les 1000 récemment.
Vous avez dépassé les 1000 récemment. Et couchées sur le papier, ces complaintes vont s'animer, vont être présentées debout grâce à un colloque.
Voilà, la semaine prochaine, les 2 et 3 avril, à Pierrefitte-sur-Seine, aux Archives Nationales, le mardi 2, et à la Bibliothèque Nationale de France, à Tolbiac, le mercredi 3.
Colloque que vous organisez avec Sophie Victorien, et peut-être nos auditeurs seront-ils convaincus par cette émission et voudront-ils s'y rendre. Alors nous sommes, mettons les choses en situation, dans la rue, sur le marché, disons à la fin du 19e, votre époque préférée, ça peut même être un peu avant, et les vendeurs tentent à prouver leur savoir-faire sonore.
Oh oh oh.
Approchez, monsieur Lame, approchez. Ici, pas de boniment, pas de veau à 5 pattes fabriqués avec de la colle forte et des bouts de ficelle. Non, du vrai, du sérieux, du solide, de l'authentique. Telle est ma devise. Tout ce dont je vais vous parler et que vous allez voir, Tout cela ont réellement existé. Ici, en France, chez nous, il n'y a pas longtemps. Ceux qui ne sont pas morts sont encore en vie et pourraient venir déclarer qu'il n'y a pas un seul mot d'inexact ou d'inventé dans ce que je chante. Alors, pour bien suivre la fameuse complainte qui me l'achète, texte complet, paroles et musique, il n'en coûte que 5 centimes seulement, avec le portrait des assassins en couleur. 48 couplets, tous différents. Attention, je commence et roulez la musique.
Alors, il tient, le chanteur, à la main un imprimé.
Oui, ce qu'on appelle le canard, qui contient une image, un texte et une complainte.
C'est une image en couleur.
Oui, c'était plus rare, mais il y en avait. Et c'est l'invention de l'audiovisuel, en fait.
Ouais. Ce canard, il peut être signé ?
Il peut être signé, l'imprimeur signe généralement, l'auteur de la complainte peut signer également, mais c'est pas toujours le cas.
Parce que vous soutenez mordicus que cette production peut être largement d'ordre populaire.
Oui, sur la période qui m'occupe, après 1870, on a énormément d'intervenants d'ordre populaire parce que un certain nombre de signataires, je les ai retrouvés dans les déclarations de colportage, ce sont des chanteurs ambulants qui fabriquent rapidement les complaintes pour coller à l'actualité.
Alors Maurice Papon tenait au nom de Jean Moulin pour le lycée de Saint-Amand-Montrond, mais vous auriez pu suggérer un dénommé Simonet, que
Louis
vous avez
Modeste
suivi
Simonet
à la trace et qui habitait et qui est mort à Saint-Amand.
Voilà, cette personne a publié plus d'une centaine de complaintes criminelles entre 1885 et 1928, toujours dans le centre de la France.
Mais on va revenir un peu en arrière, si vous le voulez bien, à une complainte matrice. Nous sommes à Rodez, le 19 mars 1817, dans la maison Bancal, parce que c'est une maison, ou un tripot, on ne sait pas bien. Des conjurés se réunissent, préparent-ils un crime ou au moins l'élimination d'un corps?
Dis donc, Bancal, t'es sûr que c'est du tabac que nous devons trimballer?
Jamais dit que c'était du tabac.
Si c'est pas du tabac, c'est pas du sel non plus. Il faudrait une charrette. Ce ne serait pas des fois un cadavre?
Un cadavre? On a tué quelqu'un?
T'inquiète pas, retourne au bois.
Ah! On va tuer quelqu'un! Ah! Je comprends. Oh, il n'est pas si bête que ça, Missonnier.
Vas-tu te taire?
La victime, dans la maison Bancal, ce sera un ancien procureur de l'Empire, Fualdès, aux affaires peu florissantes. Il sera égorgé, saigné sur la table de la cuisine, son sang mis dans un baquet, donné au cochon. Vous riez, là, Maxou Hetzen. Bah, si. Oui. C'est du moins ce dont témoigne.
Restez à l'écoute.
Dans son premier récit, un enfant de 5 ans. 8 accusés, un procès, 2 procès, une vedette dans le procès, Clarisse. Déclaration mélodramatique, évanouissement théâtraux. Elle va intervenir, d'ailleurs, très vite dans la complainte.
Écoutez, peuple de France, du royaume du Chili, peuple de Russie aussi, du Cap de Bonne-Espérance, le mémorable accident d'un crime très conséquent. Mais avant de vous conduire dans l'antre des criminels, montrons celle que le ciel a chargé de les détruire. À travers son petit jeu, vous verrez le doigt de Dieu.
On a entendu l'adresse, l'appel. On se souvient peut-être, quand on est auditeur de France Inter, des chroniques de Philippe Meyer qui commençait chaque jour par « Heureux habitants de l'Aveyron ». Et là, c'est un appel au monde.
Ah oui, là on a vu grand. On a vu vraiment grand. Ordinairement, l'appel est plutôt un argument de vente, c'est-à-dire qu'il nomme des lieux où la complainte est susceptible de se vendre. C'est-à-dire le lieu du crime et les gros bourgs voisins. Ça s'est passé près de chez vous, en fait. C'est ce dont on veut convaincre les auditeurs.
Et alors, il y a un déroulé.
Oui, assez immuable. La complainte, rappelons-le, c'est une forme strophique, il n'y a pas de refrain, et elle est généralement de grande longueur. Le record serait plus d'une centaine de couplets vers 1894 pour une complainte qu'on n'a pas retrouvée, mais qui est citée dans la presse. Ordinairement, avant 1914, on monte rapidement à 30 couplets, c'est très fréquent.
Et on va tester, parce que imaginons que vous soyez illettré, Max ou Enzel, vous seriez capable de vous souvenir du 34e couplet ?
Très intéressante question, monsieur Jean Lebrun.
Prouvez que non, vous pouvez vous en souvenir, parce que vous allez chanter un peu quand même.
Oui, mais au fur et à mesure que l'on apprend à lire, on désapprend à se souvenir. Et donc, si on remonte un siècle en avant, les capacités mémorielles de nos aïeux, on peine à les imaginer. L'audition d'une complainte d'une douzaine de couplets plusieurs fois suffisait à ce qu'ils la retiennent. Et en plus, la forme toujours très très brève leur permettait de broder et de se rattraper aux rimes et de suivre le déroulement. Comme on est dans un propos narratif, on raconte l'histoire.
Donc comme vous êtes agrégé, vous pouvez pas vous souvenir.
Si. Non, c'est séquentiel, faut que ça reparte du début.
Ah bon. alors on va faire le test tout à l'heure avant la fin de l'émission. Faut que ça parte du début et puis il faut qu'on connaisse l'air. Alors l'air, c'est un timbre.
Oui.
Dans le cadre de Fualdès, on dit que c'est un air qui vient du fond des âges du XVIIIe siècle.
Oui, oui, oui.
L'air du maréchal de Saxe.
L'air du maréchal de Saxe. Le mot timbre désigne en fait une mélodie préexistante. L'écriture sur timbre, c'est le domaine d'action du faiseur de chansons, c'est-à-dire du chansonnier. Le chansonnier n'est pas un artiste, c'est un artisan. Il a un gabarit qui est sa mélodie.
Et alors, le timbre de Fualdès, il va être nommé ainsi à partir des années 1820 et utilisé pour beaucoup d'autres complaintes. Ici, nous sommes en Bretagne. C'est une empoisonneuse en série, une bonne qui va de maison en maison. Vous vous souvenez du début d'Hélène Jégado?
Non, je n'ai pas le début d'Hélène Jégado, mais elle fait une très bonne soupe, un très bon potage, très apprécié.
Chez un bon prêtre de Guerne, nommé Monsieur le Drogo, la fille Hélène Jégado, qu'un mauvais esprit gouverne, vint demander humblement à servir pour de l'argent. La mort dans chaque demeure va la suivre maintenant. Le poison, souple instrument, pour elle tue à toute heure. C'est peut-être toi demain, Hélène assouvit sa faim.
La Bretagne est grande productrice, et du côté gallo et du côté
bretonnant. Oui, il y a même des feuilles bilingues. Il y a eu tout un travail de fait sur les chansons sur feuilles volantes qui a été mené par l'équipe de Daniel Giraudon et bien d'autres personnes, Eva Guilorel et d'autres. Et donc la Bretagne est très représentée dans notre corpus, surreprésentée parce que là le travail a vraiment été bien fait, des collections de feuilles volantes ont été analysées, inventoriées.
C'est ici un extrait d'ailleurs d'un disque produit par l'excellente association d'Astoum. Alors, c'est un personnage, l'empoisonneuse. Qu'est-ce que c'est les autres grands personnages, les prototypes?
Les tueurs en série, donc on parlera peut-être de Vacher, du Mollard, l'assassin des servantes qui les convoquait à Lyon pour prétendument les engager. Les folies criminelles aussi, c'est-à-dire la tuerie du Landreau, ce petit gamin qui, pris d'un coup de folie, assassine son maître, la femme de son maître et toute la maisonnée. Au début des années 1900, André Gide a écrit là-dessus l'affaire Marcel Reduro. C'est des crimes qui dépassent l'entendement. Les parricides, évidemment, les infanticides. Même si dans notre corpus, on retrouve une majorité de crimes d'intérêt et de crimes crapuleux.
À tueur en série, vous avez cité Vacher.
Hum?
Vous vous souvenez du début?
Tropman du Mollard Lassner, sont surpassés maintenant par le plus ignoble brigand qu'est pour surbroduit la terre. Il répond au nom de Vacher, le grand tueur de bergers.
Et c'est le personnage de l'assassin dans le film Le Juge et l'assassin. Son nom de Vacher devient Bouvier. Il est face au juge d'instruction Philippe Noiret et c'est Michel Galabru.
Écoutez, Bouvier, les juges d'instruction sont obligés de faire raconter aux inculpés toutes les circonstances des crimes qu'ils ont avoués. C'est la loi, je n'y peux rien, ça perd l'hypopète. Enfin, voyons, soyez raisonnable.
Alors, à une condition, c'est que ma lettre paraisse dans trois journaux. Le Lyon Républicain, Le Progrès et Le Petit Journal avec mon portrait. Je veux que l'opinion sache tout de suite que j'ai été mordu par un chien enragé à l'âge de 6 ans. Que mon sang a été vicié par les remèdes qu'on m'a donnés et ensuite par les mauvais traitements de l'asile de Dole. asile de destruction et de mort.
Va chez un homme infâme, vient d'être condamné à la peine capitale, il ne l'a pas volé. Ce sinistre bandit a été raccourci sur tous les jeunes bergères qui gardaient leurs troupeaux. Furent victimes les pauvres de ce hideux pourceau. Dans les champs, dans les prés, ils venaient les guetter, sautant sur ses victimes tel un loup, un chacal. Il leur faisait subir forfait épouvantable. Les violences de cet homme se terminaient souvent, forfait horrible en somme par la mort du patient, qui tombait sous le couteau du sinistre bourreau.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Moi, je voulais simplement le liner, ça s'appelle Max Wetzen, un liner dans notre jargon de RTL. Mais c'est un crime, c'est un sacrilège de ne pas donner le label France Inter à l'instant précis où il doit être donné. C'est un ordre de toutes nos directions successives. L'affaire du juge et l'assassin, on se souvient peut-être du film, se déroulait pendant le débat sur Dreyfus. Il y avait partout des affiches dans les villes du Massif central, La Croix, le journal le plus antisémite de France, etc. Alors la politique et les conséquences, par exemple, de cette affaire Dreyfus sur vos complaintes criminelles.
Alors, la complainte criminelle n'est qu'un exemple de chanson d'actualité. Et bien évidemment, tous les faits divers politiques, y compris lorsqu'ils sont criminels, donnent matière à chansons. Par exemple, l'affaire des décorations sous président Grévy a enfanté « Ah, quel malheur d'avoir un gendre » qui s'est répandu à travers la France entière. Le gendre du président vendait les décorations à vil prix. Dreyfus a inspiré les complaintes criminelles, mais là, on est dans un terrain un petit peu mouvant dans la mesure où certains textes ne sont en fait que des chansons antisémites qui sont illustrés par l'affaire Dreyfus. On a quelques complaintes qui ont le déroulement, un appel, le récit et une morale, mais...
Ces chansons antisémites, vous qui êtes très attentifs aux origines populaires ou non populaires et à faire le distinguo, ces chansons antisémites, elles viennent de Paris. Et elles
plutôt,
sont écrites par des tâcherons,
librairie Ayard,
semi-intellectuels
voilà,
de Paris.
De la rue du Croissant, voilà.
Et l'antiparlementarisme, il y a une communication pendant votre colloque, 2-3 avril, Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, de Jean-Yves Mollier sur les effets sur la chanson du scandale de Panama.
Oui, on écoutera d'ailleurs l'affaire de Panama racontée par ma concierge sur l'air de « Ah, mes enfants ». Je ne pourrais pas vous le chanter, mais le refrain c'est « Ah, mes enfants, ah, mes enfants ». Donc en fait, la parole populaire s'est emparée de cette affaire où des gros se battaient entre eux, où il y avait des affaires d'argent qui passaient au-dessus de la tête du petit peuple, mais le petit peuple a pris ça à son compte et a chansonné. Le mot de chansonnier est intéressant parce que rappelons-nous qu'il a terminé sa carrière, si j'ose dire, sur RTL avec le club des chansonniers. Et le petit peuple de France a toujours été friand de ces chansons d'une durée de vie très réduite qui parlent de l'actualité.
Alors l'actualité politique peut être, ça c'est une aubaine pour les auteurs de complaintes criminelles, un assassinat comme en 1894, celui de Sadi Carnot.
Le président vient donc de tomber sous la lame, 16 cm, d'un certain Caserio, anarchiste milanais d'origine, mais arrivant de Sète, où il était ouvrier boulanger. Pendant que le président agonisait à la préfecture du Rhône, le criminel a bien failli se faire étriper par la foule, car si notre magistrat suprême ne provoquait pas l'enthousiasme, il n'engendrait pas non plus la haine. Pour preuve, l'Union internationale autour des funérailles. 2000 couronnes déposées au Panthéon, où il repose désormais près de son grand-père, Lazare Carnot.
Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire, et qui était resté dans les mémoires, l'anarchiste italien qui aurait tout aussi bien pu s'en prendre au roi, à Rome, ou au pape. Il lui est réservé la guillotine. Alors la guillotine, c'est la morale normale qui tranche.
Alors, dans un premier temps, la guillotine a une importance visuelle, c'est-à-dire qu'une feuille où il y a une guillotine, un bois gravé de guillotine gigantesque, ça se vend bien. Ça, je peux vous dire que ça se vend bien parce qu'on en retrouve, c'était très diffusé. Et effectivement, l'une des deux issues possibles à la complainte a un but informatif mais également pédagogique, c'est d'un côté les parents, les enfants, tenez-vous bien, éloignez-vous du mal, et de l'autre côté, c'est l'appel à la loi du talion qu'on lui coupe la tête. Voilà, c'est très direct, c'est l'expression d'une parole populaire, d'un jury populaire, il a fauté, il doit être condamné. Voilà, c'est cette expression brute, qui arrive concentrée en un couplet après une trentaine d'autres. Donc la conclusion, c'est comme un coup de poing dans la figure, c'est très très efficace.
Je disais tout à l'heure que les émissions de télévision d'aujourd'hui, qui ressemblent par beaucoup de points aux complaintes populaires, n'étaient pas écrites par le peuple, parce que là, la loi du talion, elle est contournée. Et on dit, dans les émissions de télévision sur les faits divers, les parents devraient mieux élever les enfants. Oui. La rémission est peut-être possible pour le coupable.
Ces complaintes avaient la même fonction, dans certains cas, que les contes. Lorsqu'on chante une complainte lors d'une veillée, c'est pour faire peur aux enfants et les décourager d'aller du côté du mal.
1914, on n'a pas d'effet sur la complainte populaire.
On a quelques chansons et complaintes sur des crimes de guerre. L'assassinat de Miss Cavell, qui était une Britannique tuée par les Allemands en Belgique. Le jeune Émile Després, qui a tué un Allemand, qui lui avait demandé de tuer un Français. Voilà. Et puis l'enfant au fusil, qui sont des micro-événements, mais qui sont toujours très vite tournés par la propagande en outils anti-allemands.
Les crimes de guerre aussi.
Oui, oui. Mais comme... pendant la guerre de 14, il y a eu peu de chansonnets. Il n'y en aura plus pendant la Seconde Guerre.
Donc on continue comme avant. Sauf que il y a l'apparition du journal populaire, ça a précédé la guerre de 14. Il y a la chanson réaliste.
La chanson réaliste, elle se développe au fur et à mesure de ses supports, du disque et de la radio. Et donc dans l'entre-deux-guerres, la complainte criminelle, le canard, se recentre sur son cœur de cible, c'est l'information chantée, le récit chanté. Car dans la campagne de l'entre-deux-guerres, le sonore est encore rare. Quelqu'un qui s'amène au milieu d'un marché de province et qui lance une chanson, eh bien, il y a des gens qui viennent écouter.
Alors, une affaire qui est au cœur de cible, la dernière grande affaire pour les complaintes criminelles, 1934, Violette Nozière. Elle se prostitue en cachette de ses parents. Elle dit avoir attrapé la syphilis. Et à qui a dû la syphilis ? À son père, qui aurait pratiqué...
Mon père oubliait un peu trop souvent qu'il était mon père.
L'inceste sur elle. Donc elle ruine la confiance qu'avaient ses parents entre eux, puis elle va entreprendre de les empoisonner, mais la mère survivra au désastre.
C'est une gentille fillette, elle babille déjà doucement, elle porte sur sa petite tête tout l'espoir de ses vieux parents. Ceux-ci ne travaillent que pour elle, pour assurer son avenir, sans penser qu'un jour la cruelle, pour les voler, les ferait mourir. Et c'est cependant le remerciement qu'ils eurent quand elle eut 18 ans. Elle empoisonna ses parents, la méchante Violette Nozière, se riant de leur calvaire pour leur soutirer de l'argent.
Écoute-moi, maman. Mais écoute-moi.
Alors vous avez tué. Et pourquoi avoir volé? Vous aviez d'incessant besoin d'argent. Vous aviez promis à Dabin de rendre pour lui les 450 francs qu'il devait à son ami Willy. Faites entrer Jean Dabin.
Monsieur Dabin. Asseyez-vous.
C'est à vous qu'elle donnait notre argent. C'est à cause de vous qu'elle nous a assassinés.
Est-il exact, monsieur Dabin, que Violette Nozière vous remettait entre 100 et 150 francs par jour?
Oui, c'est exact.
Et quel effet cela vous faisait-il?
Aucun.
Dans le film de Chabrol, c'est Jean Carmet qui joue le malheureux père et il avait entendu, enfant, la complainte.
Oui, il avait été réveillé un dimanche matin sur la place de Saumur par un bonimenteur qui chantait une complainte.
Ça donnait quoi, Maxou ?
Lorsqu'on aborde le mystère de ces terribles accusations, et même lorsque sa pauvre mère l'accable de malédiction, à cette question, Violette répond. Peu m'importe qu'on me condamne, si je dois mourir en prison, que Dieu me pardonne ou me damne, je maintiens mon accusation.
C'est un duo avec Catherine Perrier. C'est Catherine Perrier qu'on entendait dans la première interprétation. Et vous chanterez peut-être au colloque des Archives nationales et de la BNF. Oui. Elle y sera aussi.
Elle y sera, parce que c'est un colloque où les citations seront en partie chantées.
Ah, bah ça c'est inhabituel. Donc inscrivez-vous, hein, toutes les indications sur notre site. La fin, c'est quoi ? C'est la dernière exécution publique juste avant la guerre ? C'est Bellman, la victoire de la radio pendant la Deuxième Guerre ?
C'est plutôt ça. Oradour a généré une douzaine de chansons. Même le procès d'Oradour en 53, il y a eu une chanson vendue en Bretagne. Et les deux derniers vendeurs de chansons que l'on connaît, mais il y en a peut-être eu d'autres, c'est un Breton mort en 74, mais qui a exercé jusqu'à la début des années 60. Et André Dussastre, un Toulousain qui se déplaçait en vélo, qui jouait du banjo et qui faisait des feuilles de chansons renéotypées à l'alcool, qui vendait dans les gares routières, il montait dans les cars à l'arrêt et il vendait ses chansons. Et lui, il a fait des chansons sur les crimes tout au long des années 50. En 1957, le magazine Détective lui consacre un article et il est encore en pleine activité. Et il va souvent dans l'Aveyron parce que là-bas, il y a des crimes.
Oui, l'Aveyron, c'est la matrice.
Désolé pour les auditeurs de l'Aveyron.
Les gens de Rodez ne veulent plus du tout parler de l'affaire Fualdès, savez-vous. Et la télé sait qu'elle descend de la complainte criminelle ? La télé, de fait divers, enfin.
Non, mais...
Non élucidé, fait entrer c'est l'accusé.
C'est pourtant de nature à rassurer les gens qui suivent ces émissions, en étant sentant un peu coupable, un peu confus de regarder ces choses-là. De tout temps, les hommes ont voulu savoir. Savoir le récit précis du crime, c'est éloigner le mystère, donc éloigner la peur. C'est remplacer la peur par l'horreur, mais on sait. Lorsque quelqu'un est victime d'un crime, lorsque sa famille veut tout savoir pour faire son deuil, elle veut le récit. Et la complainte offrait le récit précis, tout comme le font les émissions d'enquête à l'heure actuelle. Le conduit, le canal a changé, mais le propos médiatique est le même.
Mais quand c'est pas élucidé, c'est mieux. Enfin, il n'y a pas des complaintes avec deux ou trois versions différentes ?
Oui, on a fait des complaintes avec deux couplets de fin, et au moment du procès, on imprimait le bon couplet, c'est-à-dire le couplet avec la condamnation à mort, ou le couplet avec il y a échappé. Ça existait. Et il y a une complainte qui se terminait en disant que le coupable soit ou non fradin, il faut qu'il soit condamné. Et donc on nommait quelqu'un sans savoir s'il était coupable. Donc la présomption d'innocence, là, elle était largement absente.
Fradin, ça sent le bourbonnais. Merci d'en être venu aujourd'hui, Jean-François Enzel, Maxou et ce colloque le 2 et le 3 avril. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, réalisé par Audrey Ripouille avec à la technique Arnaud Caillet. Chez vous, un grand Mathieu Vidard.
Oui, il ne chante pas, mais il danse très très bien. Jean Guilaine, mon invité proto-historien, pour ses mémoires d'un proto-historien chez Odile Jacob.
Dans quelques minutes.